Avec nous aujourd'hui, une fois encore, José Kimonio. Vous êtes un économiste politique, théoricien, militant des droits humains, écrivain et chancelier de l'université Lumumba. Pourquoi dites-vous que le budget 2026 repose sur un malentendu fondamental?
Parce que on a confié les finances à quelqu'un formé comme collecteur d'impôts. Cette vision réduit l'État à une caisse qu'il faut remplir avant d'agir. Or, dans une économie moderne, l'État dépense la monnaie que la banque centrale crée, puis la retire avec les taxes. Si vous croyez que les impôts financent l'État, vous gérez un pays comme un registre comptable de communes. Le résultat est ce que l'on observe, un budget pensé pour encaisser, pas pour développer.
Vous affirmez que le déficit public est utile. Comment l'expliquez-vous aux sceptiques?
Un déficit n'est pas un trou, c'est une injection. Si l'économie peut absorber cette injection, elle crée de l'activité, des emplois, de la croissance. Les routes, les salaires, les écoles et les infrastructures ne naissent pas des taxes, elles naissent de la souveraineté monétaire. La seule question est, injecte-t-on l'argent là où il transforme la société ou dans les poches et les appareils de l'État?
Vous critiquez la manière dont fonctionne le ministère des Finances. Que devrait-il être?
Un laboratoire de stratégie économique, pas un guichet de recouvrement. En RDC, on traite le ministre comme un super percepteur qui surveille les dépenses au lieu de planifier la production, l'investissement et l'expansion économique. Tant qu'on confondra finances et trésors, on administrera la pauvreté au lieu de la dépasser.
Vous dites que le débat budgétaire au Parlement est un spectacle. Que voulez-vous dire?
On se dispute sur les virgules, les répétitions, les pages mal paginées. On corrige la forme pour éviter d'avoir à affronter le fond. Le gouvernement joue la comédie, il renvoie en commission, corrige des coquilles, déclare sa bonne foi. Mais jamais on ne débat du pourquoi. Et tout le monde sait que, quoi qu'il arrive, le budget passera.
Le plus fou, c'est qu'on sait dès le départ que le budget sera adopté, peu importe l'agitation. Quelle est la conséquence de cette incapacité à comprendre la fonction économique du budget?
Un budget sans vision, un budget administré comme une feuille Excel, un budget incapable d'activer les territoires, de soutenir les industries, de créer de la valeur. Tant l'exécutif que le Parlement ignorent la souveraineté monétaire, ce qui produit un débat stérile. Le pays tourne en rond.
Vous utilisez la grille COFOG pour analyser le budget. Pourquoi? Cette méthode pour analyser les budgets publics par fonction?
Parce qu'elle révèle ce que l'État finance vraiment. COFOG classe les dépenses par finalité, services généraux, défense, éducation, santé, affaires économiques, infrastructures, protection sociale. C'est une radiographie du projet d'un État. Et dans le cas de la RDC, la radiographie est alarmante.
Qu'est-ce que la COFOG révèle de plus inquiétant? Le fameux social contract ratio.
Les COFOG 1 à 5, c'est-à-dire l'administration, la défense, l'ordre public, les affaires économiques et l'environnement absorbent l'essentiel du budget. L'État dépense avant tout pour se protéger, se maintenir, se contrôler et capter l'économie. Les dépenses utiles à la population, COFOG 6 à 10, sont marginales. C'est l'exact opposé d'un État de développement.
Vous avez créé le Social Contract Ratio, SCR. Que révèle-t pour la RDC?
Il révèle une vérité brutale. Le SCR compare ce que l'État dépense pour lui-même, COFOG 1 à 5, à ce qu'il dépense pour la population, COFOG 6 à 10. En RDC, le SCR est structurellement inférieur à 0,6. Cela signifie que l'État dépense beaucoup plus pour se gouverner que pour développer sa société. C'est le SCR d'un pays qui rampe. Non parce qu'il manque d'argent, mais parce qu'il refuse de transformer son budget en dignité collective.
Vous critiquez la part de 30% consacrée à la défense. Pourquoi?
Parce que c'est un contresens stratégique. On dépense 4 à 5 fois plus que le Rwanda pour une armée moins efficace. On siphonne les fonds destinés à l'école, à la recherche, aux bourses d'études, à la santé, aux infrastructures. C'est scier la branche même de la sécurité nationale. La guerre en RDC est sociale avant d'être militaire. On gagne une guerre en asséchant la pauvreté. pas en multipliant des dépenses sans doctrine.
Vous insistez sur la nature géopolitique et économique de la dissuasion. Que voulez-vous dire?
Le Rwanda ne se risque jamais en Ouganda ou en Tanzanie comme il le fait en RDC. Pourquoi? Parce que Kampala et Dodoma ont des leviers économiques capables d'étrangler Kigali sans tirer un coup de feu. Même le Burundi possède un minimum de dissuasion géopolitique. C'est cette dimension que Kagame craint. La RDC, elle, s'obstine à ignorer la réalité. Toutes les guerres sont économiques, même lorsqu'elles se déguisent.
Vous dites que la RDC souffre d'un système électoral qui détruit le contrat social. Comment?
Le vote par liste efface la responsabilité individuelle. Les élus ne répondent pas au peuple mais à leurs appareils politiques. Une CENI opaque, clientéliste et irresponsable verrouille ce cycle. Le gouvernement devient un butin à capturer, pas un outil à servir. Dans ces conditions, aucun budget ne peut refléter l'intérêt collectif.
Vous proposez une constitution corrigée. En quoi peut-elle libérer la RDC?
Elle impose une limitation stricte des mandats, un mandat renouvelable ou réexercé une seule fois dans toute une vie. Elle réduit la taille de l'État, impose que 50% du budget serve réellement la population et transfère les ressources économiques vers les provinces et les entités locales. Elle congolise les systèmes financiers, oblige l'État à travailler avec des entreprises réellement congolaises et crée une vraie démocratie économique. Cette réforme organise la production plutôt que la prédation et redonne au peuple le pouvoir d'exiger des comptes.
Espérons que ce débat de fond prendra enfin le dessus et que la RDC choisira le développement plutôt que la stagnation.